Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée phare qui s'inscrit dans un double cadre, celui du Printemps culturel neuchâtelois, dit PCN, et la Semaine d'action neuchâteloise contre le racisme. En effet, ce soir, nous ouvrons au Club 44 un triptyque de trois rencontres qui s'inscrivent donc dans le PCN. Le lancement officiel de la manifestation aura lieu demain, mercredi, au Musée d'art et d'histoire neuchâtelois, avec notre invité de ce soir, justement, Patrick Chamoiseau. C'est une joie particulière et un vrai honneur pour le Club 44 de vous recevoir à nouveau 25 ans après votre première venue ici à notre tribune. Merci aussi à Eva Belair qui mènera la conversation. Vous en direz un peu plus sur notre invité et la thématique de la soirée juste après. Je voulais juste dire que ces deux rencontres, on a pensé, tout le comité du Printemps culturel, qu'elles étaient importantes, essentielles aussi, vu le millefeuille épais, bruissant, foisonnant, mouvement de votre œuvre et de votre pensée. Ainsi, demain soir, vous dialoguerez avec le professeur de l'Université de Neuchâtel, Loris Petris, ici présent, à l'origine de votre venue. Merci, Loris, aussi pour toute ta précieuse intercession. Merci aussi à tous les membres du comité du Printemps culturel neuchâtelois. Si au MAN, il sera plus question de créolisation, nous avons choisi d'axer la soirée de ce soir sur des textes différents, notamment cet ouvrage indéfinissable, À la force d'altération profonde, frères migrants paru au seuil que vous trouverez sur le stand de la Méridienne. Ah, il n'est pas là. Ah non, je n'ai pas le temps de regarder. Ah ben mince, il a un tel succès, je crois. Je crois qu'il y a des gens qui le recommandent à tout va dans la région, dont M. Grégory Jacquet, ici présent, directeur du service pour la cohésion multiculturelle neuchâtelois, à qui je vais céder la parole juste après, car je l'ai dit, cette soirée, il y a aussi la sacre comme cadre. Mais avant de vous céder la parole, M. Jacquet, je continue ma petite promotion pour le triptyque dans le cadre du PCN. Mardi prochain, déjà le 28 mars, nous recevons l'historien médiéviste et intellectuel renommé Patrick Boucheron, pionnier et militant d'une histoire globale, qui déplace les regards, met en lumière les interactions entre les différentes parties du monde, si souvent délaissées. Ce à quoi vous nous invitiez, M. Chamoiseau, cet après-midi, dans une rencontre ici, dans une configuration similaire avec Eva, mais avec un public de lycéens, et ce grâce à Zahra Banissadre, ici présente à travers l'association Graines de Citoyens. Zahra a aussi fondé le Printemps culturel neuchâtelois, enfin, a été l'initiatrice. Enfin, je salue aussi toute ta force d'inventivité, ton engagement et ton activisme. C'est important pour moi de le relever. Elle est aussi membre du comité du bureau exécutif du Club 44. Lors de votre première venue ici, M. Chamoiseau, vous disiez, je vous ai réentendu ce matin, parce qu'on peut vous réentendre sur notre site internet, qu'il faut s'habituer à vivre la différence et l'opacité. Je pourrais rajouter l'inexplicable et la complexité. En écho à vos mots encore de cet après-midi, vous nous avez fait sentir de manière lumineuse comment l'art et la création nous y conduisent. Ce que ne démentira pas Felwyn Sarr, penseur, économiste, poète, romancier, musicien, présent pour le troisième événement qui s'inscrit dans le PCN le jeudi 1er juin et qui invite comme vous à repenser notre imaginaire relationnel, notre capacité à accueillir. Eva Belair, donc je l'ai dit, je vais vous passer tout de suite la parole, mais maintenant... Ah, non, je l'ai prévenu quand il devait venir, pardon, j'avais encore un autre petit coup de pub, parce que ce vendredi aussi, donc on a un événement avant Patrick Boucheron, nous porterons un nouveau regard sur 1848 dans le cadre des célébrations du 175e avec Sylvie April et Irène Herrmann qui replaceront donc ce mouvement, ce printemps des peuples, dans un mouvement plus global européen. Voilà, c'est à vous, monsieur Jacquet. Merci de me rejoindre et je vous laisse la parole.
Merci Marie-Léa, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir été invité ce soir par Marie-Léa Tsvalen à dire quelques mots en tant que nouveau délégué aux étrangères et aux étrangers de votre canton, dont celui mythique en plus qu'est le Club 44. Quelques mots pour vous saluer et vous remercier pour votre présence à cette conférence qui s'inscrit notamment, comme vous l'avez rappelé, dans la 28e édition de la semaine cantonale d'action contre le racisme. Je salue d'ailleurs la présence d'Annie Lulu, autre auteure formidable, lauréate du prix Senghor, qu'on a eu l'occasion de découvrir hier dans une autre manifestation de la semaine d'action contre le racisme. Bienvenue. Une semaine d'action proposée chaque année depuis 1995 ou 95 dans notre canton pour sensibiliser la population neuchâteloise au racisme systémique, structurel et individuel. Cette semaine permet aussi de mobiliser, remobiliser les structures, les institutions, les associations qui s'engagent pour un monde plus juste, pour l'idéal, monsieur Chamoiseau, de la poétique de la relation, de la géographie cordiale, de la mondialité et du multitransculturalisme que vous évoquez dans ce livre, donc épuisé ce soir, si j'ai bien compris, Les Frères Migrants, extraordinaire pamphlet, ou c'est pas bien de dire pamphlet, mais extraordinaire œuvre pour le déléguer aux étrangères et aux étrangers que je suis désormais. La participation des institutions culturelles aux côtés des associations, des écoles, des communes et des autres partenaires est essentielle pour favoriser la réflexion et le débat sur ces enjeux, pour sensibiliser à la nécessité de préserver, de protéger les droits humains qui sont au fondement, au cœur de notre état de droit, de notre démocratie. Avant de vous rendre le micro, j'aimerais lire, si vous me le permettez, 4 lignes de la page 104 des Frères Migrants, dont je n'ai aucun doute que vous comprendrez qu'elle parle aux représentants de votre état. Au panthéon des grands droits consacrés, inscrivons un droit aux poétiques du vivre, et plus encore à celle de la mondialité et de la relation. C'est comme jeter une poignée de forces bienveillantes dans le chaos des forces brutes. Je remercie donc le Club 44, mais aussi l'ensemble de nos partenaires qui participent à cet événement, qui offre cette année un incroyable programme, et je vous invite donc évidemment à le découvrir, les plus de 70 manifestations qui sont organisées par le comité de la semaine d'action contre le racisme. Belle conférence à toutes et à tous. Merci.
Merci beaucoup. Bravo aussi pour tout le travail, l'engagement significatif de votre service, aussi Zara qui œuvre aussi à la semaine d'action de la Châteloise contre le racisme. Donc toutes ces casquettes comme ça qu'on découvre, c'est bien de le dire. Et puis vous avez les programmes ici et aussi maintenant juste... une petite introduction d'Eva Belair, avant de lui céder la parole, qui est spécialiste de l'œuvre de Patrick Chamoiseau, enseignante au lycée de la Chaux-de-Fonds et qui va déposer dans 2 semaines une thèse de doctorat sur l'œuvre de Patrick Chamoiseau, une belle synchronicité sur la question de l'intertextualité dans votre... Voilà. Mesdames et messieurs, merci de votre présence et je vous souhaite une très belle soirée.
Voilà. Merci beaucoup Marie-Léa Tsvalen pour cette présentation. Merci au Club 44 pour d'avoir organisé cette soirée. Et puis merci à Patrick Chamoiseau d'être là. C'est vraiment un grand honneur pour moi de vous donner la réplique, d'avoir l'occasion de vous côtoyer en vrai, si je puis dire, parce que c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que j'arpente votre œuvre avec un plaisir renouvelé, vraiment, et un enthousiasme qui ne tarit pas. Et c'est un petit peu comme une apothéose pour moi. Donc voilà, je voulais juste quand même le dire. Je suis assez émue et très honorée ce soir. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer cette conférence dialoguée par une brève introduction où je présenterai un petit peu l'œuvre de Patrick Chamoiseau et puis où je situerai un petit peu plus précisément Frères Migrants, qui va nous constituer une sorte de base de réflexion. Ce soir, hein, on va aborder certains des enjeux de ce texte monde, des problématiques qu'il soulève, des imaginaires qu'il convoque, et puis on va peut-être aussi avoir l'occasion de parler de l'œuvre de Patrick Chamoiseau de manière aussi plus globale, mais ce sera notre porte d'entrée, si on veut bien, dans cette œuvre magnifique. Donc ce sera donc une brève introduction, une conférence dialoguée, et puis un temps quand même généreux sera accordé pour vos questions, pour les questions du public. Il y en aura sans doute donc on n'oubliera pas ce moment-là. Voilà, alors quand on aborde l'œuvre de Patrick Chamoiseau, on peut avoir l'impression de se trouver précisément dans la posture du narrateur d'un de ses textes, Biblique des derniers gestes précisément. Le narrateur est en face d'un personnage un peu insaisissable, un personnage de guerrier qui a roulé sa bosse aux quatre coins du monde, qui a été de tous les combats et qui est en train d'agoniser hein, dans ce roman. Et puis le narrateur est face à lui. Alors, vous n'êtes pas en train d'agoniser, je l'espère. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais voilà, ce narrateur est face à ce personnage et il dit « Plus qu'à un homme, j'étais confronté à un système ouvert, une interaction de faits, d'événements, de sensations, de paroles, de gestes, dont l'architecture était mouvante, incertaine, modifiable par l'irruption d'un élément nouveau qui mettait en relief une composante ancienne. » Et ainsi, donc, à la lumière de cette citation, j'ai envie de dire en ouverture qu'il n'est pas facile de résumer en quelques mots votre parcours littéraire et intellectuel qui se déploie sur plus de 40 ans, sans risquer de trahir la subtilité qui vous caractérise, le sens de la nuance, voire aussi de l'ambivalence qu'on retrouve à chaque page dans votre œuvre. Donc je vais essayer quand même, en espérant sans trop réduire hein, cette subtilité-là, mais je vais essayer de revenir sur quelques étapes clés de votre trajectoire littéraire et intellectuelle. Vous êtes né à Fort-de-France, en Martinique, en 1953, quelques années seulement après la départementalisation, qui avait fait donc de cette colonie française un département d'outre-mer. Votre enfance est urbaine à Fort-de-France. Vous la racontez dans une autobiographie en trois volumes qui s'appelle Une enfance créole. Et puis, dans cette très riche autobiographie, on décèle déjà une tension très tôt, qui se manifeste très tôt chez vous, une tension entre deux langues et deux cultures. Le français, langue de l'administration, de l'instruction, des classes aussi les plus aisées, et le créole, d'autre part, une langue intime, plus populaire, orale, et interdite sur les bancs de l'école par le maître qui punit assez sévèrement les petits Martiniquais qui se laissent aller à parler leur langue maternelle. Donc cette tension entre deux langues, entre deux cultures, l'une dominante, l'autre dominée, on la retrouve beaucoup dans vos textes, du moins dans la première époque, si on peut dire. Vous l'évoquez dans un essai qui retrace votre entrée en littérature, « Écrire en pays dominé », en 1997. Vos premiers écrits sont fondés sur l'admiration et l'imitation des prédécesseurs qui sont, au départ, tous occidentaux. Ainsi, quand vous prenez la plume, vous situez vos premiers textes, vos premiers personnages dans des décors enneigés. Vous leur attribuez des cheveux lisses. Voilà, tout un imaginaire en fait qui témoigne d'une forme d'aliénation alimentée par l'école, alimentée par le canon littéraire français, mais aussi par cette situation néocoloniale dans laquelle se trouve encore à l'époque la Martinique et se trouve encore aujourd'hui peut-être la Martinique. Donc vous montrez en fait à quel point il ne va pas de soi pour l'écrivain antillais de convoquer sa réalité lorsqu'il s'adonne à l'écrire. Et puis, toujours dans ce texte et dans d'autres, hein, par la suite, vous mentionnez de secousses esthétiques, de visites de la beauté, pour reprendre un terme que vous avez employé cet après-midi, qui vont bouleverser cet état de fait. Il s'agit de la découverte de deux grands poètes et écrivains, martiniquais eux aussi, qui ont ouvert une fenêtre, chacun. Aimé Césaire, père de la négritude et auteur de l'extraordinaire cahier d'un retour au pays natal qui fait enfin exister l'Afrique, jusqu'alors occultée. Et puis Édouard Glissant, mentor, ami par la suite, vous découvrez ses romans fondateurs que sont Malmort, que sont le 4e siècle. Et Édouard Glissant, ce romancier, ce poète, ce philosophe, avec qui vous allez donc entretenir une relation aussi très, très intime, va laisser une empreinte profonde hein, sur votre œuvre et sur votre pensée. On a évoqué la poétique de la relation, il y a la notion de créolisation, la notion de tout monde aussi, que vous allez beaucoup contribuer à relayer à votre tour, et vous allez aussi contribuer à éclairer son œuvre. Vous allez d'ailleurs collaborer à plusieurs reprises, Édouard Glissant et vous-même, à l'occasion notamment de lettres ouvertes, de manifestes, qui déjà aussi attestent d'un engagement dans le monde de la part d'Édouard Glissant et de vous-même. Donc la découverte de ces deux écrivains, ainsi que votre séjour en France, qui dure, je crois, une dizaine d'années, en France métropolitaine, où vous allez étudier le droit, l'économie sociale, et puis où vous allez exercer aussi le métier de travailleur social, notamment à Fleury-Mérogis, en milieu carcéral, vont modifier votre regard sur le pays natal, vont problématiser justement cette tension que vous évoquez entre deux langues, deux cultures, et puis vont marquer vraiment votre démarche de manière déterminante. Après votre retour au pays, dans les années 80, vous publiez en 1986 votre premier roman, Chronique des sept misères, d'ailleurs préfacé par Édouard Glissant. Ce texte s'attache au quotidien des marchandes et des jobbers du marché de Fort-de-France. Il prend pour décor, et plus que cela, comme personnage, pourrait-on dire, la ville de votre enfance. Ce sera également le cas des deux romans qui vont suivre, Solibo Magnifique, en 1988, qui va être consacré à la mort du dernier conteur, trépasse suite à une égorgette de la parole. Il meurt de sa propre parole. Et il s'agira ensuite de mener l'enquête. Comment, quoi. Et puis Texaco, en 1992, donc cette épopée qui va relater plus de 150 ans de la Martinique, d'histoire de la Martinique, autrement, selon un point de vue qui n'est pas celui des manuels d'histoire française, à travers la perspective de la fondation d'un quartier. Un quartier populaire, un quartier, un bidonville selon les uns, une mangrove urbaine selon les autres, qui est consacré par le prix Goncourt, donc en 1992. Dans ces romans, vous élaborez une esthétique inédite, composite, où la langue créole et son imaginaire font irruption dans la langue française, d'une certaine manière, et vont l'oxygéner de fond en comble. Ces questions de langue, vous allez aussi en parallèle en traiter de manière plus théorique dans un traité d'histoire littéraire, si on peut l'appeler ainsi, Lettres créoles, et puis dans un manifeste, Éloge de la créolité, en 1989, co-signé par un linguiste et un écrivain linguiste, donc Raphaël Confiant, écrivain et linguiste, Jean Bernabé, linguiste. Vous allez tracer les lignes d'un mouvement littéraire et identitaire, la créolité, qui s'inspire largement de la créolisation glissantienne, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, sans doute. Plus tard, dans ce qui a ensuite été appelé un diptyque, le diptyque du déshumain grandiose, qui est composé de L'esclave vieil homme et le molosse en 1997 et de Un dimanche au cachot en 2007, les questions de langue sont peut-être un peu moins flagrantes, un peu moins urgente aussi, et le décor urbain va laisser la place en fait à un autre environnement, à une autre atmosphère, celle des plantations esclavagistes. C'est l'occasion donc d'explorer cette période sombre de l'histoire, mais aussi d'approfondir encore la question de la construction de l'agencement identitaire de l'écrivain que vous êtes, et de l'écrivain tout court finalement, de l'écriture, l'expérience esthétique, la relation à la mémoire, à l'abîme aussi, à l'horreur que constitue la traite négrière, les plantations, la colonisation, et puis aussi de s'interroger encore et toujours sur la relation entre l'humain et l'humain, mais aussi la relation entre l'humain et le reste du vivant. D'autres romans suivront, je ne pourrai pas tous les évoquer. Les Neuf consciences du mal fini nous plonge dans la peau d'un rapace. L'empreinte à Crusoé revisite le mythe célèbre de Robinson. Et là aussi, il mériterait des soirées à eux tout seuls. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de L'empreinte à Crusoé, vous ne parlerez plus de romans, mais d'organismes narratifs. Et puis vos publications les plus récentes, tout récemment en 2021, Baudelaire Jazz, en 2022, Le Conteur, La Nuit et le Panier, encore Le Vent du Nord dans les fougères glacées, sont des organismes narratifs qui vont transcender les frontières entre les genres et puis mêler plusieurs éléments autobiographiques, des réflexions relatives à la culture antillaise, à la figure du conteur, toujours vraiment fondamental, à la question de l'art, de l'esthétique, etc. Alors, des problématiques qui seront abordées en bonne partie demain lors de la soirée d'inauguration du printemps culturel, hein, qui s'intéressera notamment à Baudelaire Jazz et à Vent du Nord dans les fougères glacées. Mais les romans et les essais et les organismes narratifs ne constituent qu'une partie de votre œuvre, puisque vous avez aussi travaillé à des scénarios de films et de bandes dessinées, une pièce de théâtre contée, des contes, vous avez collaboré avec des photographes, vous vous êtes engagé littérairement pour diverses causes sociales, environnementales, et bref, voilà, c'est une œuvre qui est absolument bigarrée, absolument diverselle, et qui échappe, hein, qui ne se prête pas facilement, comme je l'ai dit en préambule, aux thèses unificatrices et à la réduction même du résumé. Voilà. Donc, je m'arrêterai là. Je voudrais juste encore dire que ce sont des textes qui se prête à plusieurs niveaux de lecture et le sens est toujours ouvert. Vous ne verrouillez jamais le sens de vos écrits, ce qui permet vraiment, en tant que lecteur, en tant que critique, de faire, de travailler intensément à partir de ces textes et d'établir des relations entre eux, mais aussi entre la littérature et le monde. Voilà. En bref, il y a mille et une façons d'aborder votre œuvre. Ce soir, notre porte d'entrée sera Frères migrants, que je vais vous présenter brièvement maintenant, avant de poser ma première question. Donc, publié en 2017, dans le contexte plus actuel que jamais, hélas, de la crise migratoire en Europe, Frères migrants est un hommage aux innombrables personnes en provenance d'Irak, d'Érythrée, d'Afghanistan, du Soudan, de Syrie, etc., refoulées aux portes de l'Europe ou bien réduites à vivre de manière indigne dans les métropoles occidentales. Mais Frères migrants, je crois, je rejoins assez ce que vous disiez, c'est aussi un pamphlet où vous dénoncez les forces dominantes de notre époque, telles que la barbarie néolibérale qui a verrouiller le monde, comme vous le dites, à un système déshumanisant, un déshumain, pour utiliser votre vocabulaire, auquel vous tentez quelque part d'opposer une résistance par l'écriture en esquissant aussi la voie d'un autre imaginaire relationnel. Donc, ma première question concerne la genèse de ce texte. Vous avez dit que bien souvent, dans le processus d'écriture, il y avait souvent à l'origine de vos romans, de vos textes, une question que vous vous posez et que vous essayez de traiter à travers l'écriture. Je me demandais s'il en avait été de même pour Frères migrants, ou bien si l'urgence de la situation et de l'actualité ont fait que le sujet, d'une certaine manière, s'est imposé à vous.
Oui. Donc, merci à tous, hein, merci d'être là. Merci aussi à ceux qui m'ont invité. La naissance de Frères migrants est liée à une demande qui m'a été formulée par des amis qui sont des militantes, des activistes, je dirais, des droits humains. Et lorsqu'on a eu les difficultés avec des migrants à Paris, avec tous les camps sauvages qui étaient éliminés par la police, ces personnes allaient à 4 heures du matin porter du café. C'est vraiment des gens qui sont en première ligne, alors que moi, je ne suis pas du tout militant. En plus, j'habite en Martinique et je suis très loin. Donc, j'arrive à Paris, elles me disent, on a besoin de te voir, etc. Et elles me racontent tout ce qu'elles ont vu dans le traitement des migrants à Paris par la police, un truc absolument incroyable. Et elles arrivent à faire monter un sentiment d'indignation. Je suis assez sensible aux injustices. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu le sentiment qu'écrit ou que la parole littéraire ou la parole poétique pouvait intervenir sur le cours des choses. Je suis plutôt admiratif des militants et militantes qui vont se battre avec les forces de l'ordre, etc. Et c'est vrai que je ne penserai jamais à opposer, en tout cas à saisir une situation comme celle-là, avec une écriture. Et c'est d'ailleurs pourquoi les quelques manifestes que j'ai écrits avec Glissant, Quand les murs tombent, au moment de l'apparition d'Obama, etc., on a eu quelques textes militants. C'était toujours lui qui avait pratiquement, je sais pas, 80 ans, et qui avait gardé une espèce de capacité à indignation, et qui m'appelait, il m'a dit, on ne peut pas laisser passer ça, non, il faut qu'on écrive quelque chose, etc. C'était toujours surprenant, parce que nous, on n'a aucun pouvoir, on n'est relié à aucune puissance, on n'a simplement que notre écriture. Et quand il me relançait comme ça, il parvenait à faire monter en moi quelque chose qui ne montait pas tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est rare que j'ai une réaction directe quant à quand il faut intervenir ou quand il faudrait intervenir poétiquement dans un phénomène comme un phénomène important, hein, et notamment comme celui des migrants. Donc elles me disent ça et elles arrivent à faire à monter une indignation. Et c'est vrai qu'au départ de ce texte, il y a une indignation. Et l'indignation, c'est important parce que à l'amorce de toute écriture littéraire, hein, l'écriture littéraire n'est pas une activité rationnelle. C'est une activité totale. Et le point de départ est toujours, je dirais, une sorte de catastrophe émotionnelle à partir de laquelle cette catastrophe émotionnelle est importante parce que c'est une catastrophe émotionnelle, c'est-à-dire une sorte de submersion de l'esprit par le corps, mais c'est aussi dans cette submersion de l'esprit par le corps, on a aussi une catastrophe esthétique, c'est-à-dire qu'on perd tous les cadres esthétiques qui sont les nôtres et on plonge d'une certaine manière en chevauchant l'émotion, on fait un saut dans l'inconnu. Hein. Je crois qu'à l'amorce de toute création, il y a cette nécessité d'éliminer le déjà vu, le déjà dit, le déjà entendu, etc., et de sauter dans l'inconnu. Et c'est ça l'intérêt d'une œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art qui est importante, elle revient toujours de l'inconnu, et cet inconnu, c'est le réel. La complexité du réel, qui est pour nous un inatteignable, en tout cas un inatteignable pour nos quelques sens, c'est quelque chose qui peut être traité par des saisies poétiques que peut opérer une écriture littéraire. Donc ça, c'est important. Ce qui fait que l'indignation est là, et très, très rapidement, en moins d'une dizaine de jours, j'ai écrit Faire migrant. Mais derrière l'écriture de Faire migrant, il y a toute une narration importante. Chaque fois que je suis intervenu avec Glissant sur un phénomène social ou sociétal ou de notre époque, il y avait toujours cette volonté de montrer aux gens que ce qu'il appelait la poétique de la relation n'était pas une vue de l'esprit, c'était pas un truc intellectuel, parce que Glissant est très difficile, et quand on dit ouais, le monde est aujourd'hui devenu une fluidité relationnelle, et c'est avec ça qu'il faut essayer de penser notre existence dans ce monde. Donc il a toute une théorie là-dessus, mais ça paraît très théorique. Et quand on se saisit d'un fait d'actualité et qu'on lui applique une poétique de la relation, là, on peut percevoir des fonctionnalités insoupçonnées. Donc, c'est généralement ce qui m'a permis, dans l'espèce de catastrophe émotionnelle, de sentiment d'indignation, j'ai pu m'emparer du phénomène des migrants et y apporter ma vision en tant que une pensée ou un poécepte, hein, j'appelle ça poécepte, c'est pas un concept, c'est à la fois un concept et une poétique. Donc le poécepte, c'est une saisie de la réalité du monde qui nous permet d'éclairer des phénomènes qui alors sont laissés aux économistes, hein, parce que c'est ça le règne capitaliste, les experts ont la parole. Et la connaissance artistique, la connaissance esthétique, n'est pas considéré comme recevable. Quand j'ai écrit Frères migrants, j'ai proposé à tous les comédiens du monde de s'emparer du texte gratuitement et de lire le texte dans les rues. Ce texte a été énormément lu parce que je pense qu'il y a ce que Glissin appelait la pensée du poème. La pensée du poème, c'est toute la connaissance sensible d'une réalité, enfin d'un réel qui nous échappe et qui est aussi important que la pensée scientifique. Donc à partir de là, regardant le phénomène des migrants, je l'ai rapproché de deux notions. D'abord, la première notion, c'est la présence du monde en nous, l'importance qu'a pris le monde avec la mondialisation économique. Et la deuxième notion, c'est quelque chose qui est proposé par Glissant, qui est de se dire, oui, effectivement, le monde est en face de nous, nous traverse, nous habite, on ne peut pas y échapper. C'est le monde des capitalistes et des financiers. Mais on ne peut pas non plus refuser le monde sous prétexte de lutter contre la mondialisation économique. Il y a une tendance dans les pays non occidentaux pour refuser l'occidentalisation du monde, pour refuser la domination occidentale, pour rejeter le capitalisme. La première tendance a été de fermer les portes et les fenêtres et de se replier sur des réalités locales, etc. Et Glissant expliquait que pour lutter contre le monde, les capitalistes ont 50 ans d'avance, hein, ils sont déjà transnationaux, translinguistiques, transreligieux, ils sont déjà déterritorialisés. C'est une emprise qui a d'ailleurs quitté simplement l'espace occidental et qui touche la Chine, qui touche l'Inde. Il y a un paradigme néolibéral qui fait l'économie mondiale. Et l'unité du monde a été portée par cette mondialisation économique qui mobilise économistes, experts, etc. Et lorsqu'on a eu le phénomène des migrants a été éclairé simplement par les lois et les nécessités de la mondialisation économique. Alors que Glissant dit effectivement... Il faut lutter contre cette mondialisation économique, mais il ne faut pas abandonner le monde. Parce qu'il y a aujourd'hui une réalité relationnelle du monde. Il dit qu'à partir de la colonisation, lorsque l'Occident a frappé pratiquement tous les peuples du monde, il n'y a pas eu de rencontre, mais il y a eu des chocs, des génocides, de l'esclavage, la colonisation, le système des plantations, un phénomène interrétroactionnel. Qui a fait exploser les vieilles partitions communautaires, identitaires, culturelles, et qui a libéré une dimension qui était importante dans les communautés, mais qui était maintenue à basse intensité, qui est l'individu, l'individuation. Et l'individuation, c'est ce qui permet, du fait de les communautés qui sont en général des corsets symboliques, des absolus culturels relatifs, qui maintiennent les individuations à basse intensité, ces communautés se sont d'une certaine manière fracturées, parce qu'avec la colonisation, la montée du capitalisme, l'accélération des techniques, des sciences et des techniques, le surgissement de l'immanence numérique, etc., on a le fait que les individus se sont dépris du corset communautaire et ils sont entrés dans des mobilités complètement erratiques et complètement imprévisibles. Le monde s'est mis à habiter des imaginaires individuels, alors que jusqu'à maintenant, l'imaginaire communautaire assignait l'individu à son lieu, à sa culture, etc., sauf exception. On a toujours eu de grands voyageurs, mais c'était globalement ça. Et il dit qu'aujourd'hui, le monde n'est plus le monde structuré par des civilisations, des cultures, etc., mais c'est devenu un vortex de fluidité relationnelle qui change tout et qui libère des processus d'individuation. Ce qui fait que sur la mondialisation économique, il y a un deuxième monde, un autre monde qui n'est pas prévu par les capitalistes, un deuxième monde qui est porté par, je dirais, des agentivités individuelles, des gens qui font des alliances, des mobilités, des couples qui se retrouvent entre plusieurs langues, plusieurs histoires, etc., des ONG, de nouveaux principes qui se réunissent autour de l'État-nation et qui produisent une activité déterminante, beaucoup plus déterminante que peut l'être les anciennes communautés. Ce qui domine le monde aujourd'hui, ce sont véritablement des individuations agissantes, quoi, des agentivités individuelles. le capitalisme, et c'est ça la puissance du capitalisme, c'est la seule force, je dirais idéologique, hein, qui a pu chevaucher ce phénomène d'individuation. Toutes les forces progressistes que nous avions, communistes, socialistes, etc., étaient des forces qui partaient de l'imaginaire communautaire. C'était le « nous », c'est le parti, c'est le syndicat. C'est le « nous » domine l'équation individuelle. Alors que, du fait du phénomène relationnel, le « nous », c'est-à-dire le « nous » communautaire, ne retient plus comme ça les expériences individuelles. Et l'individu se retrouve précipité dans un processus d'individuation dans lequel il doit réaliser lui-même son éthique, son architecture de connaissances et de principes. C'est-à-dire que dans la communauté, les communautés archaïques offraient un prêt-à-porter existentiel. Dans nos sociétés qui sont des sociétés d'individus, il n'y a pas de prêt-à-porter existentiel. Chaque individu se construit avec une grande mobilité, avec les stimulations qui lui viennent de la totalité monde, en tout cas qui lui viennent de son rapport au monde. Et quand on examine, là, il nous manque, il faudrait vraiment une anthropologie des phénomènes d'individuation dans le monde. Il y a un deuxième monde, il y a un autre monde, il y a des circulations, il y a des hybridations, il y a des processus de multi-trans-appartenance, il y a des surgissements de lieux qui ne sont pas répertoriés par la nomenclature juridique internationale, mais qui existent et qui sont multi-transculturels, multi-trans-raciaux, un peu multi-trans, tout ce que vous voulez. Mais dans le multi-transculturel, le plus important, c'est le trans. Parce que le trans, c'est pas seulement une espèce de mosaïque de communautés qui vivent plus ou moins côte à côte, qui essayent de garder soi-disant leur pureté, c'est véritablement des inter-rétroactions qui font qu'il y a plus qu'un métissage, il y a un phénomène de devenir imprévisible que Glissant va appeler la créolisation. Alors le métissage était relativement prévisible, hein. Le métissage part d'un imaginaire d'absolu. On a un noir, le blanc. Et on sait que si le noir et le blanc se rencontrent, on aura du gris, par exemple. Alors que dans la créolisation, on a des heurts, des contacts, des hybridations, des ruptures, des phénomènes, je dirais, de catalyse qui produisent des phénomènes absolument anthropologiquement, en tout cas très, très, très compliqué, très, très difficile à percevoir. Et cet autre monde est là. Cet autre monde est là. Et comme nous avons, nous, à nous débarrasser de la mondialisation économique et du capitalisme, nous devons nous commencer à réfléchir à la fois à cet autre monde qui est déjà là, que nous devons apprendre à voir, à deviner, comprendre un petit peu sa nouvelle logique, ses nouveaux principes, et en même temps, projeter dans nos combats, dans nos alliances, dans nos rêves, dans nos idéaux, projeter cet imaginaire de la relation qui change énormément de choses. Dans la relation, par exemple, on peut choisir sa terre natale. C'est-à-dire, la terre natale, jusqu'à maintenant, c'était l'endroit où on était né. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien autour de vous, on ne sait pas où nos enfants vont atterrir. Et très souvent, les gens sont aspirés par des flux relationnels dans le monde. Et leur terre natale va devenir l'endroit où ils se réalisent. La terre natale, c'est le lieu où on se réalise en tant que personne. Alors, qu'est-ce que j'appelle la personne ? C'est que nous sommes tous projetés dans des phénomènes d'individuation. Nous échappons au corset symbolique des communautés et on se retrouve emportés dans un processus où nous devons nous réaliser nous-mêmes. Alors, si le processus d'individuation est perverti, comme a réussi à le faire le capitalisme, avec son dogme du profit, de la croissance permanente, du profit maximal, de la compétition, on a eu une sorte de perversion de l'individuation en individualisme. Et c'est là qu'on voit effectivement le repli de beaucoup de gens sur leur pouvoir d'achat, la désyndicalisation, la perte des partis, la disparition des militants des anciens systèmes. On est véritablement dans des sociétés d'individus qui sont devenus des consommateurs. Et l'imaginaire consommateur est un véritable effondrement de l'esprit humain. Par contre, si l'individuation s'accomplit, l'individu s'accomplit en tant que personne. Et la personne arrive, c'est c'est l'individu qui parvient à un niveau de connaissance et de conscience, à un niveau de fréquentation des réalités du monde, à, je dirais, à une sensibilité, à une divination des forces actives dans le monde, et surtout à une divination sous la mondialisation économique de ce qu'est la mondialité. Et il y en a beaucoup, il y a énormément de ces pratiques. Il y a un livre d'Edgar Morin qui s'appelle La Voix. Edgar Morin, c'est un des penseurs les plus puissants de la France. Et il a répertorié toutes les alternatives qui existent dans le monde au dogme capitaliste. On a l'impression que c'est fini, que le capitalisme est triomphant, et on ne voit pas trop comment on va s'en sortir. Mais il a réussi à montrer qu'en fait, l'autre monde est déjà là. Il y a des pratiques qui sont des pratiques différentes. Mais comme nous sommes encore dans l'imaginaire ancien, nous sommes dominés par l'imaginaire capitaliste, nous ne parvenons pas à percevoir ces autres présences. Et ça, c'est une mondialité qui est à la fois déjà là et qu'ils font construire. Et quand quelqu'un devient une personne, elle va développer, du fait de son niveau de conscience, elle va développer des alliances, des combats, des idéaux, des rêves, des engagements, une présence un peu comme mes deux militantes qui sont auprès des migrants tous les soirs à 4 heures du matin, etc. C'est une espèce d'agentivité extrême et importante qui rend l'individu solidaire, non pas l'individu pris, devenu consommateur et s'occupant de sa vie, mais la personne, c'est vraiment un processus d'individuation qui s'accomplit en présence du monde et qui rend solidaire de toutes les forces, dominées dans le monde. Et ça, c'est absolument important. Et qu'est-ce que ça produit? Que produit la personne? La personne ne va pas produire, comme on le désire très souvent dans les intégrismes religieux, les nationalismes un peu sectaires, enfin, la recherche que nous avons de la communauté, puisque la relation est tellement puissante que l'effet de la relation qui progresse en nous et à travers nous va provoquer le truc contraire, la montée de l'extrême droite, les discours racistes, le grand remplacement, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme peur de ce phénomène relationnel. Mais le phénomène relationnel, personne ne peut l'arrêter. Par contre, on a des grands poètes de la relation, c'est-à-dire ces fameuses personnes qui ont réussi à exister à l'échelle réelle de la mondialité et qui vont développer non pas des communautés à l'ancienne, mais des nous. La différence entre la communauté et le nous, c'est que le nous, il est chaque fois qu'un individu, une personne, développe un combat, fréquente un idéal, s'engage dans un projet, s'émeut de quelque chose et participe à une entreprise, même si c'est transitoire, éphémère, etc., il crée des nous. Donc chaque personne aujourd'hui, c'est une constellation de nous. Et l'avantage des nous, c'est qu'ils sont extrêmement mobiles, ils peuvent évoluer et ils se rencontrent, les nous se rencontrent. Et on n'a plus la possibilité de faire les communautés à l'ancienne, parce que les communautés à l'ancienne, c'était toujours des systèmes symboliques relativement clos. Les nous, c'est véritablement des espaces multitransculturels, c'est-à-dire des espaces relationnels. Je crois que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais une fois qu'on a compris que sous la mondialisation économique, il y a ces présences d'individuation qui se déploient dans d'autres voies, qui ne sont pas simplement dans un refus contre la mondialisation, mais qui cherchent autre chose spontanément, une autre manière de vivre, une autre espérance, un autre idéal, un autre rêve, une autre façon de voir le monde. Parce que là, ce qui fait la situation contemporaine, c'est que dès qu'on apparaît quelque part dans sa terre natale, on est immédiatement habité par le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas un enfant qui n'est pas habité par le monde. C'est-à-dire le monde devient un horizon qui existe dans les écrans, qui existe dans la musique. Enfin bon, quel que soit l'endroit où on est habité par le monde. Et c'est ça qui va provoquer quelque chose d'assez qui va être complètement déterminant dans la mondialité. Ça va être la déterritorialisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus assigné à sa terre natale, on n'est plus sous le diktat d'une communauté qui nous accable ou en tout cas qui nous met dans un corset existentiel. On est dans la nécessité de se construire dans les stimulations qui nous viennent à la fois de la mondialisation économique, mais aussi de cet autre monde possible où des individus se sont dépris des anciens dictats identitaires, culturels, linguistiques, religieux, et exercent une présence au monde qui est une présence consciente. Et ça, c'est... Et qu'est-ce que ça provoque ? Eh bien, ça provoque des migrations. C'est-à-dire que quand on est quelque part, quel que soit l'endroit où on est né, le désert, une île, etc., le monde est là. Et quand l'élan, le grand désir de vivre, ce qui a toujours habité Sapiens, c'est-à-dire aller voir ce qu'il y a à l'autre bout de l'horizon, tout ça ne concerne pas simplement aller voir derrière la montagne que l'on voit. Le grand désir humain, le grand désir des individuations, c'est aller voir le monde. Et on s'élance dans le monde. Et ce qui fait que dans la mondialité et dans l'imaginaire de la relation, la mobilité individuelle sera absolument effarante. On a aujourd'hui des mobilités qui sont liées à des catastrophes, des guerres, des famines, au dictat, une espèce de comment on peut appeler ça, cette horreur économique du capitalisme qui aspire comme ça et qui appauvrit et qui jette dans des misères des peuples et des coins entiers du monde. On a le changement climatique aussi qui provoque des déplacements qui seront imprévisibles et qui peuvent toucher n'importe qui. Donc ça, c'est une donnée qu'il nous faut intégrer. Mais indépendamment de cela, on a une poétique du monde qui existe chez chaque individu. Chacun vit avec le monde en lui et le monde travaille en lui. Et ça veut dire que l'actuelle partition de la Terre en états-nations, avec des frontières meurtrières, avec des absolus, je dirais, vous savez, c'est des états-nations antagonistes, compétitifs, générés par le capitalisme, tout ça va se confronter à une mobilité qui devient extrême. Si nous ne parvenons pas à comprendre que l'échelle la plus active de l'imaginaire qui touche au grand désir individuel, c'est le monde, on va continuer à assassiner des gens aux frontières parce que ce mouvement est totalement irrépressible. Ce qui fait que penser le monde comme un vortex de relations est essentiel, est important. Et ça suppose donc que l'on change totalement je dirais, l'actuelle législation qui s'occupe des migrations et renouveler entièrement ce phénomène-là. Et si on ne le fait pas, on rentre dans des régressions. Ceci étant, le traitement fait aux migrants révèle la vraie nature du capitalisme. Ce qui peut bouger, ce sont les marchandises, les capitaux, et je ne sais pas quoi, mais l'être humain ne peut pas. L'être humain ne peut pas se déplacer. Et ça révèle une barbarie qui est terrible, parce qu'on ne peut pas comprendre comment une grande nation comme l'Europe, où il y a des millions de personnes qui pourraient accueillir des millions de personnes, continue à laisser mourir en Méditerranée tous les jours des dizaines et des dizaines de femmes, d'enfants, etc. Donc la barbarie profonde du capitalisme se révèle par le phénomène migratoire. Et c'est toutes ces notions-là que j'essayais d'évoquer dans Frères migrants. Prendre le phénomène migratoire et essayer de le saisir par le biais d'une poétique de la relation. Poétique de la relation qui nous oblige à repenser toutes les structurations juridiques du monde.
On disait effectivement, on a parlé de pamphlets, on a parlé d'odes. C'est aussi un poème, ce texte. Et à ce titre, les mots... les mots ont un poids, font réseau, ils sont souvent, je ne sais pas si on peut dire lourds ou légers, mais de sens en tous les cas. Il faut opposer à ce que vous avez, donc effectivement, à cette barbarie nouvelle qui actionne donc le levier du numérique, qui actionne le levier aussi du langage, mais un langage désincarné. Hein. Vous parlez, c'est une formule magnifique, ces mots tombés monstres, le grand remplacement, l'emploi, voilà, l'étranger, etc. Ces mots qui finalement entrent dans le quotidien, dans l'imaginaire, et qui quelque part déshumanisent aussi les gens qui les profèrent. Donc à ces mots tombés monstres, à ces valeurs un peu creuses, manipulées comme des pièces détachées, ce que vous dites aussi, hein, ce qui est très intéressant. Donc ces pensées un peu, cette pensée de prêt-à-porter, si on veut bien, qui finalement ne réinvente rien du tout ou n'imagine rien du tout. Il faut opposer, dites-vous, une éthique et une poétique sans grande démonstration. Hein, cette beauté de l'inutile et du gratuit. Et à cet égard, il y a un motif, un mot, il y en a d'autres, hein, mais qui fait réseau justement, qui est éminemment poétique, mais qui en même temps est quelque part incarne une promesse, la promesse, une lueur. Donc ce mot, c'est les lucioles qui apparaissent dans le texte, qui apparaissent aussi en épigraphe chez les nombreux auteurs que vous citez en épigraphe ou dans le corps du texte d'ailleurs. Donc ce motif de la luciole, ma question c'est est-ce que finalement, est-ce qu'il faut la comprendre comme finalement un symbole de ces manifestations d'humanité que sont celles par exemple des militantes qui vous ont qui ont suscité chez vous l'indignation. Est-ce que c'est le langage poétique qui permet d'entrevoir d'autres devenirs? Est-ce que c'est les deux à la fois? Est-ce que c'est aussi une manière pour vous, qui disiez au départ, vous êtes en Martinique, vous êtes assez loin de ces problématiques, du moins géographiquement, mais en même temps, la luciole, tout comme le mot migrant, ça fait écho à qui connaît votre œuvre, puisque, ou celle de Glissant, le migrant, c'est aussi le migrant nu. Évidemment, et puis la luciole, c'est aussi quelque chose qui est un motif, plus qu'un motif, qui est omniprésent aussi dans le paysage martiniquais et le paysage littéraire martiniquais aussi.
Oui, en tant que martiniquais, antillais, créole américain, on est immédiatement touché par les phénomènes migratoires. Parce que nous venons de la traite des nègres, qui a touché des millions d'Africains qui ont été arrachés des côtes de l'Afrique et avec lesquels on a éclaboussé les îles et toutes les Amériques. Et pendant la traversée des bateaux négriers qui a duré presque 3 siècles et quelques, a transporté entre 12 et 15 millions de personnes. Mais il y en a presque autant qui sont au fond de l'Atlantique. Donc pour nous, la plupart des poètes de la Caraïbe disent que la mer est une histoire et que la mer est un vaste cimetière. Quand vous regardez la carte du monde, quand vous jetez un œil sur l'Atlantique, vous pouvez vous dire qu'il y a un des plus grands cimetières, parce que des millions d'Africains sont au fond des abysses de l'Atlantique. Et quand on constate qu'en plein XXIe siècle, le même phénomène se reproduit et que la Méditerranée, jour après jour, est en train de devenir un cimetière, on est saisi des fois, parce qu'on se dit comment un tel phénomène peut recommencer alors qu'on est au XXIe siècle. Et on est en plein développement des sciences et des techniques. On n'a jamais eu autant de possibilités de comprendre, d'analyser et de nous projeter. Mais comme nous sommes dominés par un imaginaire barbare, qui est l'imaginaire capitaliste, toute cette avancée technologique est mise au service du dogme capitaliste et ne nous permet pas d'améliorer notre humanité. Mais en tout cas, nous sommes extrêmement sensibles à ça. Et avant même d'écrire Frère Migrant, j'avais écrit un poème qui s'appelait Lampedusa, où je signalais que la Méditerranée devenait un cimetière. Alors la question des lucioles, qui est évoquée par Pasolini, quand il parle du fascisme qui a jeté la nuit, qui a tué toutes les lucioles, etc., qui a tué toutes les espérances, en fait. Dans la nuit antillaise, lorsqu'on marche, la nuit, à l'époque, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de lumière. Et donc, il fallait marcher soit avec un flambeau, et si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas le flambeau, il n'y a plus de lumière, sauf si, bien sûr, il y a un ciel de lune, etc. Et quand la nuit est noire, comme ça, le simple fait d'avoir le scintillement des lucioles réanime quelque chose qui relève de l'imaginaire. Le scintillement des lucioles dans la nuit où il n'y a pas de chemin touche la sensibilité, touche l'imagination, redonne l'espoir, ne donne pas de chemin, mais recrée, je dirais, une espèce d'oxygène de l'esprit, d'hygiène de l'esprit, en tout cas d'espérance qui se renaît, et on peut continuer à avancer dans la nuit. Alors c'est toute la différence entre la lumière, les lumières qui sont celles des lucioles qui ne donnent pas le chemin, et la grosse lumière des projecteurs qui indiquent une direction, qui détruisent la nuit et qui indiquent une direction. la luciole réveille l'expérience, fait travailler l'imagination et ouvre l'imaginaire, alors que le projecteur, qui est le fascisme en soi, va écraser la nuit, c'est-à-dire la possibilité, les possibilités infinies, et nous donner une orientation. Donc l'idée des lucioles est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre que si au XXIe siècle, des centaines de personnes peuvent mourir en Méditerranée, c'est qu'il y a un dessèchement. Je disais que ça révèle la barbarie du capitalisme, mais il y a un dessèchement de l'imaginaire. Et beaucoup de gens sont persuadés qu'il n'y a pas de solution, que c'est presque normal, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc., etc. Et le cimetière est en train de grossir. Ce qui fait que lorsque l'imaginaire est desséché, ce n'est pas les discours savants, experts, les expertises économiques, sociologiques, etc. C'est la puissance du poétique. La puissance du poétique, c'est le déploiement de Luciole. C'est brusquement dans la nuit qui est tombée sur le monde. Il y a des espérances, il y a des possibilités, il y a des stimulations artistiques et esthétiques qui s'adressent à la totalité de la perception et qui font que ça réveille, d'une certaine manière, un peu d'espérance et ça remet en mouvement le grand désir d'exister, d'être et de se projeter. Et c'est pourquoi il me semble qu'un phénomène comme le phénomène des migrants ne pouvait pas être laissé aux seuls experts, qu'il fallait une stimulation esthétique. Et la stimulation esthétique, sa force, c'est qu'elle s'adresse à la totalité de la perception. Et l'intérêt de s'adresser à la totalité de la perception, c'est pas en s'adressant, en frappant d'une certaine manière la totalité de la perception, que l'on peut modifier très durablement et très profondément un imaginaire. C'est pourquoi il est absolument important, en ces siècles de barbarie capitaliste, que nous ayons des politiques culturelles extrêmement vives. Parce que les politiques culturelles qui organisent la médiation entre les œuvres d'art qui s'adressent à la totalité de la perception et qui nous ouvrent sur une nouvelle manière de se penser et de penser le monde, la médiation mise en place par les politiques culturelles sont absolument importantes. Et comme le capitalisme traite les politiques culturelles comme des ornements en général, c'est pas ce qui est le plus déterminant. La culture devient un lieu de consommation le plus souvent. On a ce dessèchement de l'imaginaire. Donc nous devons penser un autre monde, penser la mondialité, faire en sorte de lâcher dans tous les imaginaires desséchés ces lucioles qui vont nous dire mais un autre monde est possible et que nous ne pouvons pas accepter que des gens meurent, quelle que soit la raison qu'on peut invoquer, nous ne pouvons pas accepter. Et quand je parle de stimulation esthétique qui touche la totalité de la perception, l'exemple le plus terrible, c'est la photo de ce petit migrant, Ilan, qui va être prise par un journaliste, comme ça, de manière presque fortuite, et qui va modifier pendant quelques semaines le rapport que la plupart des États européens avaient vis-à-vis des migrants. Et simplement parce qu'il y a dans cette photo, comme dans d'autres photos qui existent dans l'histoire du monde, il y a dans cette photo une intensité esthétique très particulière qui, à partir même de l'horreur, va créer un déclenchement, un déclenchement d'humanité. Et c'est ça qui est fondamental, parce que l'œuvre d'art, dans sa stimulation esthétique, touche au grand désir qui fait un individu. Le grand désir qui nous amène à nous dépasser, qui nous amène à des principes, je n'aime pas tellement le mot de valeur, disons à une éthique complexe. Les nazis avaient des valeurs, la plupart des barbares extrême droite, ils ont des valeurs. Donc la valeur peut devenir une mécanique meurtrière. En revanche, l'éthique complexe ne peut pas devenir une mécanique meurtrière. Ce qui fait que chaque fois qu'on a une stimulation esthétique, avec la stimulation esthétique, on a une éthique. Une éthique, et la stimulation esthétique, elle est liée à l'humain, elle s'occupe de l'humain exactement comme devrait le faire une politique normale. L'objet de la politique, ce n'est pas l'économie. Les capitalistes ont réduit l'économie, le politique à l'économie, alors que l'objet du politique, c'est le bien-vivre humain dans le vivant. Et si l'humain n'est pas la finalité d'une politique, cette politique est une barbarie, ce qui nous est arrivé. Et quand la politique est une barbarie, que les stimulations esthétiques et artistiques sont diminuées, l'éthique défaille. l'éthique défaille et on se retrouve dans ce dessèchement qui est le nôtre. Donc je voulais, en traitant de manière extrêmement poétique, en fréquentant l'idée de la relation, en fréquentant, je dirais, cette vision, en essayant d'imaginer cet autre monde qui est désormais à notre portée et dans lequel nous allons vivre, nous n'allons plus vivre à l'échelle des territoires, nous allons vivre à l'échelle de la mondialité et dans des conditions qui sont absolument nouvelles pour l'esprit humain. Qu'est-ce qui va se passer? On a un effondrement de la nature, ça c'est les caractéristiques du monde qui vient. On a un effondrement de la nature qui fait que nous devrons gérer la nature. On a commencé à gérer la nature, à rétablir les équilibres. On a un basculement de toute l'espèce humaine, de la vieille nature, dans les écosystèmes urbains. Toute la culture contemporaine, toutes les idées contemporaines, toute l'avant-garde artistique, toute la littérature d'aujourd'hui est une littérature urbaine. La sensibilité humaine aujourd'hui est profondément urbaine. C'est l'espace urbain, pas la ville. La ville ancienne a pratiquement disparu. Nous sommes dans des phénomènes urbains extrêmement complexes, des écosystèmes dans lesquels l'humanité va aborder une période complètement inédite. Et cet écosystème urbain sera traversé, habité, tramé par l'immanence numérique. Tous les objets connectés, les villes seront elles-mêmes connectées, nous serons nous-mêmes connectés. Et dans cette immanence numérique, il y a, bien entendu, le monstre, un autre monstre, mais au sens de prodige et de merveille, et de terreur aussi, qu'est l'intelligence artificielle, qui va organiser tout ça. Et puis derrière, il y a aussi le rapport au cosmos. Le rapport au cosmos est intéressant parce que la plupart des communautés archaïques avaient des cosmogonies. Et ils vivaient, donc ils essayaient d'appréhender la complexité de leur monde, d'abord par des métaphysiques animistes. Le rapport au vivant était beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant que celui qu'a développé le capitalisme occidental. Mais ils intégraient, le moindre détail de leur vie était intégré à une vision de la création du monde, à une vision de l'univers. Ce qui a progressivement disparu, on a laissé ces choses-là aux recherches fondamentales, mais le cosmos, dans les années qui viennent, les découvertes que nous allons faire à propos de l'univers, vont modifier complètement la perception, enfin les bases de notre esprit. Ce que nous allons découvrir, ce que nous allons réussir à comprendre concernant le fonctionnement de l'univers sera absolument vertigineux. Et c'est cet autre monde-là qui est en train d'advenir. Alors la difficulté, c'est que ces éléments-là sont gérés, hélas, par l'imaginaire néolibéral. L'intelligence artificielle, les espaces urbains, les écosystèmes numériques et même le développement des bio-nanotechnologies qui vont organiser la fusion très, très, très certaine entre, je dirais, la pensée biologique et la pensée artificielle. Tout ça, c'est géré par le capitalisme. Et le capitalisme risque de trouver un nouvel élan dans ces dimensions-là. Donc, il y a une urgence pour nous de penser autrement, de ne pas laisser le monde qui vient à la seule régie capitaliste. Mais c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. En tout cas, ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que les migrants sont en avance pratiquement d'un monde. Ils vivent à l'échelle qui n'est plus une échelle de petit territoire, je suis né là et que je vais mourir ici, etc. Ils vivent à l'échelle, leur grand désir, la géographie cordiale de leur grand désir, c'est le monde. Et cette géographie, cette proximité du monde en nous va développer des mobilités que nous devons organiser du point de vue de l'éthique et du point de vue du droit international. C'est tout ça que j'essaye de formuler comme proposition poétique, comme pensée du poème au niveau de Frères Migrants.
Et finalement, dans d'autres de vos textes également, puisque cette question de la présence de l'autre en soi, elle traverse, je dirais, absolument tous vos textes. À plusieurs niveaux, d'ailleurs, si on revient à Frères Migrants, donc vous débutez votre texte vous commencez par donner la parole à ces deux informatrices. D'emblée, vous dites, vraiment à la première ligne. Inde, celle qui filme, me dit « En France, la Méditerranée est au coin de la rue ». Deuxième paragraphe, Jane, celle qui écrit, me murmure, à Paris, je sers du café chaud, des tranches de pain beurré, à des yeux dépourvus de paupières. Donc, c'est assez fort parce que c'est une parole rapportée qui ouvre votre texte. Et puis, au sein de votre texte, en fait, vous convoquez beaucoup de relais aussi littéraires qui viennent informer votre parole, à commencer par le titre, hein, qui est hautement intertextuel, finalement. Hein, on pense évidemment à François Villon, à sa balade des pendus, hein, frères humains. Donc là, forcément, donc on a évoqué Glissant, est-ce qu'on a évoqué Antoine de Saint-Exupéry ? Oui, à travers les Lucioles.
Ah, je ne sais pas, oui. Lucioles, oui, parce qu'il a des descriptions magnifiques quand il survole les villes et qu'il voit ces petites lumières qui représentent des vies domestiques, une sorte d'humanité. Ce sont des pages absolument sublimes. Et ça ressemble à l'imaginaire des Lucioles, oui, ça c'est clair. C'est ça.
Et ce texte, finalement, en fait, quelque part, il mime ce qu'il appelle de ses voeux, à savoir inviter l'autre en soi, quelque part, accepter cette présence de l'autre en soi, cette déclaration des poèmes aussi qui clôt votre texte est très intéressante. Donc cette place aussi que vous-même dans vos œuvres laissez à la parole de l'autre. Il y a ce très beau néologisme que vous avez créé, la sentimentèque, qui finalement reflète au niveau littéraire cette poétique de la relation d'une certaine manière. Alors ma dernière question avant de passer la parole à d'autres, ce serait voilà, aujourd'hui, donc on sait que cette sentimentèque vous accompagne depuis toujours, qu'elle s'est enrichie au fil des années, vous la donnez à voir volontiers, hein, vous citez des parties de votre sentimentèque, vous dites ce que tel écrivain, telle autrice vous a apporté, ou tel artiste aussi, puisqu'il y a donc Pasolini, il y a Banksy, hein, donc ce n'est pas seulement des textes. Voilà, quel rôle aujourd'hui joue cette sentimentèque dans votre démarche d'écrivain, dans votre façon de penser le monde? Est-ce qu'elle est toujours aussi importante qu'à vos débuts? Ou est-ce qu'elle s'enrichit justement aussi? Alors, il n'y a plus que des écrivains, finalement, il y a aussi des personnes réelles, il y a des personnes, il y a des sensations, c'est une sentimentographie, encore plus qu'une sentimentèque. Donc voilà, oui. J'aimerais finir.
Ce qu'on peut dire, pour rester dans la poétique de la relation, qui est pour moi le poécepte le plus puissant aujourd'hui, hein, c'est à partir de ça qu'il nous faut essayer de penser ce que nous avons à faire. Si on reste du côté de l'imaginaire de la relation, on comprend qu'une bibliothèque, telle qu'on peut l'imaginer, avec les livres qu'il faut avoir, les auteurs classiques, les ceci, les cela, les gens ont l'impression qu'il y a une bibliothèque idéale, c'est-à-dire alors qu'il n'y a, la bibliothèque idéale est une bibliothèque communautaire. C'est-à-dire, c'est l'ordre du dominant qui a sacralisé un certain nombre d'ouvrages qui sont déclarés importants et qui, pour de vraies raisons, d'ailleurs, sont déclarés importants, ce qui fait que la pratique de la bibliothèque était d'ordre communautaire. On appartient à un groupe, à une norme savante, à une sensibilité collective qui nous donne la belle bibliothèque. Or, dans la relation, la bibliothèque va naître de son rapport, de son expérience dans la matière du monde. Et ce n'est plus une bibliothèque, c'est une sentimentèque. C'est-à-dire, votre grand désir, quand il en arrive à le libérer et qu'il s'exerce dans la matière du monde, va vous amener des frères, des sœurs, des alliances incroyables, et on va puiser dans tout ce qui existe, dans la production éditoriale. Ce qui fait que dans ma sentimentèque, il n'y a pas que de grands auteurs. Il y a un auteur comme San Antonio que j'adore, qui a été pour moi déterminant parce que ça correspond à un moment particulier où j'étais en train de me dire mais comment je peux habiter de manière complètement libre la langue française et non pas selon les modalités colonialistes. Il y a San Antonio qui m'a d'une certaine manière révélé encore mieux Rabelais, et tous les argots français des romans policiers que je lisais ont été importants pour moi. Ce qui fait que la sentimentèque, elle est liée à un processus d'individuation très personnel, ce cheminement vers lequel on essaie de s'accomplir en tant que personne. Donc la sentimentèque est précieuse. Elle n'est plus un ordre donné par une pensée communautaire, elle est un cheminement qui est très personnel. Et comme ce cheminement, il développe nécessairement une esthétique, une éthique et une élévation, la bibliothèque, la sentimentèque est beaucoup plus puissante qu'une bibliothèque parce qu'elle témoigne du cheminement d'une conscience. Alors c'est ça qu'il faut comprendre dans la relation. Le phénomène d'individuation est absolument important. Et les forces progressistes jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à avoir la puissance capitaliste parce que les forces progressistes ont toujours essayé d'imposer aux individuations un comportement, je dirais, communautaire. Il faut adhérer au parti, il faut obéir au parti, il faut adhérer au syndicat, le syndicat donne un mot d'ordre, etc. Et on se méfie de l'individuation que l'on confond avec l'individualisme. Alors qu'une individuation des politiques culturelles qui prennent soin du développement individuel sont des politiques qui sont absolument précieuses parce qu'elles permettent, à des créativités singulières de parvenir à un haut degré d'accomplissement et au développement de nous qui font la trame du monde. Et ça nous permet aussi de comprendre que les vagues migratoires, ce ne sont pas des communautés qui se déplacent, ce sont des individus. Et chaque individu a un rêve, un petit bout de désir, il a un fantasme, il a quelque chose qui habite son imaginaire, il a un rapport complètement individuel au monde. Ce qui fait que chaque fois que vous avez un migrant en face de vous, c'est pas ni une culture, ni une religion, ni une civilisation, c'est un désir du monde qui s'exerce et qu'il faut savoir accompagner. Et toutes ces notions-là sont absolument importantes. La poétique de la relation, elle apparaît chez Glissant au moment de la décolonisation, et la relation, dans un premier temps, organise les rapports entre les civilisations et les cultures. La civilisation occidentale avait hiérarchisé les civilisations et les cultures, avait d'une certaine manière exacerbé cette notion d'identité, et tout le monde s'est embarqué dans ça, ma culture contre ta culture, ma civilisation contre mon Dieu contre ton Dieu, etc. Et Glissant disait non, il y a une autre manière plus horizontale, plus féconde d'organiser le rapport entre les cultures et les civilisations. Mais dans la relation, ça va beaucoup plus loin parce que l'idée de la relation, comme on est sorti du corset communautaire, c'est d'abord le rapport à soi-même. Et quand on sort du corset communautaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'une certaine manière, la communauté vous imposait un jeu, une sorte de jeu social qui comprimait l'incroyable multiplicité intérieure que représente un individu. Le grand désir, ce n'est pas un monolithe. Le grand désir, c'est quelque chose d'absolument imprévisible qui se déploie comme ça dans le réel du monde et qui produit comme ça des comportements, etc. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est la créativité individuelle est basée sur la tonicité ou l'intensité du grand désir. Et si le grand désir n'existe pas, c'est-à-dire s'il est brimé par la communauté, c'est la communauté qui progressivement va éteindre les individuations. Et les communautés qui ont été les plus développées et qui ont été les plus, qui se sont avancées ou qui ont été les plus somptueuses, ce sont des communautés qui avaient quand même réussi à mobiliser des créativités individuelles. Mais ça, c'est un autre truc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le grand désir qui s'exprime dans les processus d'individuation nous parle d'une réalité monde que nous devons essayer d'imaginer et de penser. Et ça, c'est absolument essentiel. Ce qui fait que la relation, c'est une relation à sa multiplicité, à son grand désir intérieur qui est infiniment plus large que ce que nous avons imposé le plus souvent les communautés. Notre sexualité est beaucoup plus complexe que le comportement que nous connaissons dans les communautés dominantes. Beaucoup d'éléments de notre personne relèvent d'une multiplicité agissante que nous avons perdue et que la relation libère. Donc c'est déjà la relation à soi. C'est aussi la relation à l'autre. Alors dans un premier temps, l'autre c'était l'étranger, celui qui n'a pas la même culture, la même civilisation, le même Dieu, la même couleur de peau. Mais l'autre, ce n'est plus seulement ça. L'autre, c'est tout ce qui est non humain. C'est la nature, c'est le vivant, ce sont les végétaux, ce sont les animaux. La manière dont nous traitons les animaux au 23e siècle, ils vont nous considérer comme étant des barbares. Toutes les élevages industriels qui sont des catastrophes incroyables. On est aujourd'hui en train d'essayer de percevoir le psychisme des plantes. On est en train de travailler sur les différents langages. L'humanisme vertical a toujours pensé qu'il n'y avait qu'une seule langue, un seul langage actif sur la planète, alors qu'il y a une infinité de langages que nous commençons à décoder. Donc, relation à soi, relation entre les cultures, les civilisations et relation avec le vivant. Avec le souci d'échapper à ce que les colonialistes nous ont apporté, en tout cas nous ont imposé, qui est la transparence. Les colonialistes avaient peur de la diversité. Ils installaient une sorte d'uniformisation. On voit bien comment le capitalisme génère des espaces d'uniformisation différenciés. Je suis toujours frappé de voir à quel point nous sommes uniformisés, même si on a le sentiment d'une différenciation. J'étais en transit à l'aéroport. Tout le monde a des baskets. Tout le monde a des baskets. Tout le monde, nécessairement, quelqu'un viendrait. On se dit, mais il y a une armée incroyable. Ils ont des baskets, ils ont des jeans, ils ont à peu près les mêmes vêtements, même s'il y a des petites... L'uniformisation est différenciée. Mais on voit bien qu'on n'est pas dans l'accomplissement d'individuations qui ont atteint le stade de personne. Et ça nous montre à quel point il est important que nous puissions respecter la diversité et surtout faire en sorte que cette diversité s'exprime. Quand le colonialiste arrivait quelque part et qu'on avait un autre dieu, une autre couleur de peau, une autre logique culturelle, il disait qu'on était indéchiffrable, on était opaque, et il nous clarifiait. Donc on civilisait les gens, et si on n'arrive pas à les civiliser, on va les génocider, etc. En fait, le colonialisme a été une tentative de mise en transparence du monde, des cultures du monde. Et même la notion d'universel que l'Occident a portée pendant longtemps, c'était généralement se ranger aux valeurs occidentales et devenir universel, c'était d'une certaine manière à adopter le dogme occidental, la manière d'être et de vivre et de penser de la face la plus terrible de l'Occident, parce qu'il y a une face de lumière. Et ça, Glissande vous explique, nous avons le souci, quand on voit les effondrements de civilisations et ces pertes qui se sont installées sur le monde entier, nous avons le souci de préserver la diversité, passer de ce vœu d'universel au vœu de diversel. La diversalité est plus intéressante que l'universel dans la mesure où ça permet d'aborder la nécessaire, je dirais, cohérence humaine, je dirais la convergence humaine peut s'exprimer dans le divers. Et pour préserver ce divers, il y a ce qui est absolument contraire à la pensée, à la mise en transparence des colonialistes, qui est le droit à l'opacité. Et c'est pourquoi dans mes textes, il n'y a généralement pas de glossaire. Il y a une manière d'exprimer les choses, une vision, une saisie des réalités qui ne va pas imposer une transparence, qui ne va pas me mettre en transparence pour le lecteur, mais qui va habituer le lecteur à fréquenter l'opacité de l'autre et comprendre qu'on peut aimer l'autre, on peut vivre avec l'autre, on peut agir avec l'autre sans pour autant le réduire à une transparence qui ne donne que les uniformisations que nous connaissons. Ouais, toutes ces complexités-là, mais il y a une infinité de notions. C'est pourquoi il est important de lire Glissant. Et le seul moyen que nous avons aujourd'hui de lutter contre l'hégémonie capitaliste qui est puissante, qui va s'accorder à l'immanence numérique, qui va investir l'intelligence artificielle, qui est en train de s'élancer à la conquête du cosmos, si on veut se débarrasser de cette plaie, c'est véritablement un imaginaire complètement différent de celui des colonialistes, qui est la relation, le contact, la rencontre avec le non-humain, avec l'altérité la plus... l'autre devient quelque chose qui ne m'appartient même plus, que je ne peux même pas imaginer, et avec lequel je vais apprendre à cohabiter dans le respect, dans l'harmonie et dans la diversalité. Ce sont des notions pour moi fondamentales.
Merci beaucoup cette vaste réponse. Et Je pense que, qu'il est temps peut-être de passer la parole que je passe du moins la parole à d'autres pour des questions sur ces très riches réponses que vous nous avez données et puis d'autres peut-être d'autres textes d'autres compléments qui seraient désirés justement ici.
Oui, alors à vous, ouais, on va l'applaudir. Oui, merci infiniment. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je voulais un petit peu être courte, mais vraiment, c'est la première fois que je mets des baskets en 4 ans. Hein. Pas de chance, mais c'était pour être confortable, pour vous accompagner tout cet après-midi. C'était un privilège de vous côtoyer. Donc, merci aussi à Eva pour tous ces riches apports. Mais je me retourne vers les questions. Ah, et je vois Théo Bregnard, notre conseiller communal que j'ai oublié de saluer, qui s'occupe de politique culturelle, de questions d'intégration. Il y a aussi Sandrine Kyriakos, la déléguée à l'intégration pour la ville de la Chaux-de-Fonds présente. Bravo. Et je pensais de la nourriture pour penser. Et puis aussi dire, oui, que la semaine d'action contre le racisme, c'est aussi l'apport des villes, des régions, de tous ses partenaires. Comme le printemps culturel, en fait, cet même esprit particulier. Voilà, c'est dit, et les questions maintenant. Ouais. Donc, il y en avait. Voilà, je commence. Ah, ouais, j'ai perdu mes moyens, donc je prends l'ordre. Je prends celle-ci, après, je viens là, pardon.
Ah, bonsoir, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Il y a une notion sur laquelle j'aurais aimé vous entendre revenir. Parce que vous parlez du fait de revenir sur cet imaginaire desséché, de réinsuffler par la poésie notamment et d'imaginer d'autres choses. Vous avez mentionné qu'il y avait urgence aussi, et ce mot urgence qu'on entend beaucoup, à justement ne pas laisser le capitalisme peut-être imposer ces choses qu'on voudrait peut-être pas. Mais c'est un questionnement que j'ai d'ordre général. J'ai l'impression que l'urgence, elle est inscrite elle-même dans le capitalisme. C'est-à-dire l'idée de devoir, je pense à Hartmut Rosa ou d'autres qui ont parlé de ce truc d'accélération, l'idée même de devoir agir vite, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'idée de pouvoir imaginer autre chose? C'est-à-dire que pour imaginer, il faut que je puisse rêver, il faut que je puisse tester, il faut que je puisse, faire faux, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce rapport entre urgence et poésie, en fait?
C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut développer des poétiques. Si on essaie de penser et de trouver un système de pensée, une pensée systémique, un peu comme cette hégémonie capitaliste ou même les grandes forces qui s'opposaient aux capitalistes, c'était des pensées systémiques. Or, ce que nous avons à faire par les politiques culturelles que nous avons imaginées, c'est de développer la créativité populaire. Quand les politiques culturelles font ce travail de prendre soin de l'accomplissement de chacun, que chacun parvienne à devenir une personne, que ces personnes développent cette infinité de nous, cette constellation de nous qui s'entremêlent aux autres nous et qui font la trame des solidarités sociétales ou mondiales, on entre dans un processus de créativité. Chaque fois qu'on a un problème de créativité, qu'il y a une domination, en étudiant le phénomène esclavagiste, je me suis aperçu que la résistance dans les plantations, la résistance la plus déterminante, n'a pas été les Spartacus, c'est-à-dire ceux qui sortaient leur coutelas et qui partaient dans les bois, etc. Ce sont ceux qui sont restés et qui ont fait le jazz, qui ont fait les danses, qui ont fait toute une, je dirais, une dynamique de créativité. Et c'est cette dynamique de créativité que nous devons lancer par des politiques culturelles à imaginer qui va faire monter, non pas une pensée de système, mais cette multiplicité des désirs, cet emmêlement des désirs. C'est-à-dire, il y a un truc que la communauté nous a laissé qui est très imprégné dans notre esprit, c'est le grand récit. Une communauté, c'est un grand récit qui est imposé aux individuations, mais un grand récit est totalitaire. Le nazisme, c'est un grand récit. Le colonialisme, c'est un grand récit. Et ce que nous avons à faire, c'est non pas, comme beaucoup de gens, ah, ils nous font un autre grand récit. Non, il nous faut faire en sorte que des histoires, des expériences dans la matière du monde, des devenirs se rencontrent et produisent des phénomènes d'interaction qui sont créatifs. Et à ce moment-là, l'alternative, parce que nous cherchons l'alternative au système capitaliste en imaginant un autre système, alors qu'il nous faut sortir de la pensée systémique et rentrer dans les dynamiques de créativité. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc, vous voyez à quel point il y a une sorte d'urgence, mais aussi, cette urgence, elle n'est structurée que par l'essentiel. Et ce n'est pas la même urgence qui est de courir après les misères générées par le capitalisme, etc., etc. Hein, c'est autre chose.
Oui, bonsoir, cher Patrick Chamoiseau. Je vous dis cher parce que j'ai vécu avec vous l'année passée à travers un très, très grand livre qui est « Biblique des derniers gestes ». Et une aventure véritablement extraordinaire. J'aimerais juste vous entendre sur un point. On parle pas mal ces temps de l'appropriation culturelle. Et on a eu un exemple, je vous le donne très, très rapidement. En Suisse, un groupe qui jouait du reggae avec des dreadlocks, c'était des blancs. Ils ont été attaqués vertement en disant qu'ils faisaient de l'appropriation culturelle. Ils ont hurlé et le concert a été supprimé. L'organisateur, enfin, il y a eu toute une polémique là autour en Suisse. Et ça me fait penser à ce que vous venez de nous dire sur les systèmes totalitaires. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'assister à une sorte de
totalitarisme.
J'arrive pas à le dire. Totalitarisme du entre guillemets politiquement correct qui manque complètement sa cible.
Exact. Oui, c'est une sorte d'obscurantisme. Ce que la domination capitaliste génère, c'est de l'obscurantisme. L'obscurantisme est assez particulier parce qu'il peut s'accommoder de connaissances techniques, de complexité culturelle, de tout ce qu'on peut imaginer comme délicatesse ou comme l'Allemagne nazie n'était pas un pays arriéré. Et la plupart des barbares nazis étaient des hommes de culture. Et l'obscurantisme peut surgir. Et quand le grand désir a été remplacé par des pulsions de consommation, l'obscurantisme apparaît. Et le combat lui-même contre l'ancienne hégémonie occidentale et se fait le plus souvent sur des bases obscurantistes. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que la relation nous permet de considérer les cultures qui sont les nôtres, les traditions qui sont celles du lieu de notre pays natal, sachant que le pays natal, on peut le choisir. Le pays natal, c'est le lieu où on se réalise, c'est pas le lieu où on est né. Personne n'est assigné à son lieu de naissance. On choisit son pays natal, on choisit sa langue, on choisit son Dieu, on se déplace au gré d'une expérience dans la matière du monde. Et à partir de là, la culture, les cultures, les traditions, les civilisations ne sont que des ressources. C'est un peu comme on va entamer un long chemin dans la matière du monde et nous avons des points de départ, des choses qui vont nous aider à aller plus loin, à vivre, à penser le monde. Et la culture n'est qu'une ressource. Et cette ressource, elle est à la disposition de tous. Aujourd'hui, la culture contemporaine est une culture de culture. La civilisation contemporaine est une civilisation de civilisation. Et l'énergie contemporaine est une énergie basée sur l'individuation. Nos sociétés sont des organismes d'individus. Ce qui fait que la vieille démocratie qui traitait les gens de manière un peu massive est obligée de se réinventer sur la base de stimulations de grands désirs qui appartiennent à des devenirs individuels. Donc considérer les cultures comme étant des ressources à la disposition de tous, c'est la bonne attitude. En tout cas, c'est l'attitude de la relation. Aller dire « cette ressource, c'est à moi, tu ne dois pas », c'est faire du colonialisme. Et très souvent, et ça, c'est une des grandes misères de ce mot horrible qui est le décolonial, je ne supporte pas la colonialité, etc. C'est vrai que la colonisation a été une frappe inaugurale de la mise en relation du monde. Mais on ne peut pas, ce que nous avons à penser n'est pas simplement un contre-discours, une opposition binaire à tous les principes du colonialisme. Le décolonial est encore dans l'imaginaire colonial. Et ce que nous avons à faire, à opposer aux persistances de l'esprit colonial, c'est un imaginaire de la relation. Parce que l'imaginaire de la relation ne considère pas que le colonialisme est le soleil déterminant, et que je vais améliorer ma vie parce que j'aurai débarrassé tout ce qu'il y a autour de moi des persistances du colonialisme. Ça va avancer. Mais fondamentalement, même si on fait un nettoyage des persistances coloniales, on va se retrouver devant le monstre fondamental qui est le néolibéralisme. Le colonialisme a accouché. Du colonialisme au capitalisme planétaire, il y a une continuité effrayante. Effrayante. Et si on examine bien les deux imaginaires, c'est pratiquement le même. Mais seulement, l'ennemi qui est le plus déterminant aujourd'hui, c'est véritablement cet ennemi que nous devons penser non pas avec le monde ancien, mais avec la mondialité. Donc toute la réflexion aujourd'hui, c'est d'essayer de deviner la mondialité, avec ce souci de ne pas tomber dans des pensées de système, des pensées systémiques ou des systèmes de pensée, mais de rester dans la vivacité imprévisible de la relation. Et c'est pourquoi Glissant, toutes les notions qu'il avait, mondialité, le droit à l'opacité, enfin bon, il en a des dizaines, il pratiquait ce qu'on peut appeler l'indéfinition. C'est-à-dire, il prenait le terme « tout le monde », par exemple. Et dans tous ces livres, vous allez voir que le terme « tout le monde » est dessiné par petites touches, par facettes, et qu'on n'a pas la grosse définition centrale qui allait arrêter, parce que personne ne sait ce qu'est le « tout le monde », puisque dans le vortex relationnel du monde, tout est en devenir et tout reste en devenir. Et une des voies de réalisation de la personne, c'est la capacité de l'individu qui a augmenté, qui est arrivé à ce niveau de conscience et de connaissance, d'actionner tous les devenirs minoritaires. Deleuze disait que pour s'opposer à un ordre dominant, il faut devenir tout ce que l'ordre dominant minorise, insulte. Donc on a un devenir nègre qui concerne tout le monde. On a un devenir femme. On a un devenir LGBT. On a un devenir animal. On a un devenir arbre. On a une multiplicité de devenirs. Et tous ces devenirs mobilisés par un imaginaire suffisamment intense et créatif vont accomplir ce que nous ne savons pas, que nous ne savons pas encore définir, mais qui sera un monde où il n'y aura pas d'oxygène ni pour le colonialisme, ni pour le capitalisme.
Eh bien, j'avais une question un peu plus simple, mais ce que je trouve intéressant dans tout ce que vous montrez, cette nécessité de libérer l'imaginaire, de cette importance des relations, de cette importance de ces récits multiples qui appartiennent à chacun, mais en même temps, on se rend compte qu'on est sans cesse, par le capitalisme, ramené à un récit. Vous évoquiez les baskets, je ne vais pas m'acharner sur les baskets, mais on est sans cesse ramené à des désirs de récits communs. Et finalement, c'est aussi ça, cette difficulté. À la fois, je pense qu'il y a une nécessité de libérer, d'aller vers d'autres mondes, d'ouvrir des portes, des fenêtres, comme vous l'avez évoqué, mais en même temps, on est toujours ramené par le capitalisme à un récit réducteur. Et on n'arrive jamais finalement à sortir. Vous avez parlé de nombreux récits passés. Aujourd'hui, on en cherche de nouveaux. Et finalement, on n'arrive pas à sortir de ça.
Ouais. Et comme le capitalisme a fait de nous des consommateurs, ce qui demeure dans nos individuations qui sont angoissantes, hein, c'est plus facile de vivre dans une communauté qui vous donne un prêt-à-porter existentiel. Voici ton Dieu, voici ta langue, voici ça c'est un homme, ça c'est une femme ça se comporte comme ça, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer comme corset symbolique et fonctionnel, c'est ça que la communauté nous donnait. Mais le grand désir humain est partagé de cette manière un peu bifide. On a ce désir de s'accomplir en personne, individuelle, mais l'accomplissement en tant que personne se fait aussi avec la pulsion du bien commun. Donc l'idée n'est pas de créer du communautaire, mais de créer des espaces communs, des biens communs, que notre activité de production de nous va envisager. Ce qui fait que cette pulsion du communautaire que le capitalisme, d'une certaine manière, a invalidée, il l'a transformée en uniformité différenciée. Et nous vivons aujourd'hui Notre élan de faire partie d'un groupe est de l'ordre de l'uniformisation différenciée, ce qui n'est pas du bien commun. On voit comment la mode des tatouages, tous ces trucs-là, très bizarres, tout ça, ce sont des uniformisations différenciées. Parce que nous avons cette pulsion du bien commun. Mais pour la personne, si nous parvenons à cet imaginaire la relation, le bien commun sera aussi une complexité infinie. Et là où nous allons nous rencontrer et créer des nous, c'est dans nos devenirs, les devenirs minoritaires que nous devons systématiquement assumer. Et plus nous assumons des devenirs minoritaires, tout ce qui est méprisé par le capitalisme, détruit par le capitalisme, ce sont autant de devenirs pour nous. Et c'est par là que nous relançons à la fois le commun ce sont nos devenirs convergents, et puis notre créativité collective, qui va nous donner un autre monde que nous ne pouvons pas encore imaginer. Mais ne pas pouvoir l'imaginer et marcher vers, c'est échapper aux pensées de système, aux systèmes de pensée.
Merci.
Compliqué, hein?
Oui, je sais qu'il y a des trains, des gens partent, mais comme c'est si précieux de vous avoir, on peut prolonger un petit peu, mais on a encore 5 minutes officiellement. Mais on peut prolonger hein, jusqu'à un petit quart d'heure.
Oui, bonjour. Je suis d'accord avec vous que le capitalisme, c'est détestable. Mais la barbarie, elle existe depuis la préhistoire, et vous le savez. Et donc, on peut aussi lire le Coran ou la Bible. Vous verrez aussi beaucoup de barbarie dans ces textes, dans ces récits, comme vous les appelez. Et ce n'est pas vrai que les migrants sont uniquement des individus. Ils ont tendance à faire des communautés quand ils arrivent dans un autre pays. Et ils ont raison, parce qu'ils peuvent s'entraider. Ou s'ils sont de la même religion, ils veulent se retrouver. Donc c'est faux de parler uniquement d'individuation. Et enfin, donc vous parlez de la traite transatlantique, donc qui a été un immense crime. Mais il y a eu d'autres traites, alors je vous laisse les citer.
Oui. Mais nous, hein, les migrants font plutôt des nous stratégiques ou des communautés stratégiques. Elles sont transitoires et éphémères. Je ne sais pas ceux qui travaillent avec les migrants, quand ils grattent un peu, il y a toujours une sorte de fantasme individuel qui se dessine et qui est presque imprévisible. Si vous pensez qu'avant, ils viennent du même pays, ils vont au même endroit, bon, peut-être qu'il y a des tendances, mais les devenirs sont très différents. Et chaque fois qu'on a des agglutinations stratégiques, comme on en a lorsqu'il y a des immigrés quelque part, une fois que chacun a fait sa voie, hop, il quitte le lieu, les fameuses banlieues. On peut avoir des exceptions. Mais fondamentalement, on est dans des processus de réalisation personnelle. Mais il ne faut pas opposer, c'est ça qui est difficile pour nous, nous pensons que l'individuation, c'est l'individualisme. On peut être un individu accompli avec toutes les solidarités qu'il faut, avec toutes les ressources qu'il faut, avec tous les devenirs minoritaires assumés, etc. C'est possible. Et ça nous demande de nouvelles politiques culturelles qu'il nous faut imaginer. Bon, l'esclavage antique, l'esclavage transsaharien organisé par les Arabes, et même l'esclavage des Égyptiens, c'est vrai que ça s'est beaucoup alimenté dans l'Afrique subsaharienne. Mais dans les mondes, dans les cultures arabes, on a des esclaves qui sont devenus des icônes poétiques, des icônes religieuses. On n'est pas assigné à la damnation qu'a inventé l'esclavage de type américain, cette damnation de tout un phénotype. Aujourd'hui, quel que soit le pays du monde où vous allez, le phénotype le plus déprécié, c'est le phénotype nègre. Vous pouvez examiner la condition des Noirs dans tous les pays, même ceux qui vous fascinent, et vous verrez que ce n'est pas brillant. Donc, d'une certaine manière, la sensibilité contemporaine est façonnée par la vision du monde qu'avaient les colonialistes, et c'est cette vision. Hein, l'Occident n'est plus déterminant en tant qu'espace géographique. Mais ce qui règne sur le monde, c'est son intention. On a rencontré la face sombre de l'Occident, on n'a pas rencontré la face lumineuse. La face sombre de l'Occident a tellement frappé l'imaginaire collectif que toutes les tares qui ont surgi dans le colonialisme se sont maintenues dans la vision collective du monde. Et c'est pourquoi jusqu'à maintenant, le crime que représente la traite des Noirs, des millions de Noirs, n'est pas traité à son juste niveau. Et un autre truc qui est important aussi, dans l'assainissement que nous avons à faire pour avancer vers la mondialité, c'est la réparation. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la situation de l'Afrique. On ne peut pas comprendre aujourd'hui le rapport de force dans le monde, là où il y a des pauvretés, là où il y a des richesses, sans la frappe coloniale. Et ça nécessite une réparation, simplement parce que les effets du crime sont encore visibles aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a tous ces éléments-là qui nous obligent à penser à assainir notre monde et à sortir de ce monde où il y a des ombres, des hiérarchies imbéciles qui subsistent, du racisme qui n'a plus de fondement, etc., etc. C'est très, très difficile, ça, je reconnais. Mais il faut en être conscient.
Mais je rappelle quand même comme on a... qu'il y a eu de traite des Noirs contre les Noirs.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un vieux système tribal. Lorsqu'il y avait des guerres entre des royaumes, il y avait des prisonniers de guerre qui devenaient esclaves, etc. Il y a des castes en Afrique. On ne peut pas dire que l'Afrique, c'est un pays idyllique. Hein. C'était vraiment des situations humaines. Mais ce qui s'est passé, c'est que la pratique commerciale des esclavagistes a intensifié ce qui avait toutes les parts d'ombre qui existait dans les conflits entre les royaumes. Et c'est vrai qu'à un moment, beaucoup de rois, pas nécessairement plus éclairés que d'autres, sont rentrés dans la traite des nègres et ont vendu, se sont enrichis comme ça. Mais en même temps, quand on regarde finement l'histoire, il y a beaucoup de royaumes africains qui se sont opposés, beaucoup de déclarations, beaucoup de combats qui se sont opposés à l'esclavage mis en œuvre par les Occidentaux. Donc, ce n'est pas aussi simple.
Merci. Est-ce qu'il y a une dernière petite question courte ou sinon on va finir ici aux réactions d'essayer, je crois que du coup, vous pouvez poursuivre demain soir. Ça, c'est un immense privilège. En tout cas, moi, je ne me lasse pas de vous entendre après 4 heures aujourd'hui. Enfin, c'est chaque fois... Je suis assez émue et admirative de la puissance d'élargissement, autant éclairante que bouleversante de vos propos. Et comme vous citez Didier Berman dans votre texte, il est venu ici au Club 44.
Ah, j'adore.
Ouais, c'est vrai qu'il parlait. Ouais, c'est comme les baskets, je dis ouais maintenant. Oui, et puis il parlait vraiment de la force de la poésie, de cette capacité à nous mettre en mouvement, nous faire sortir de soi. Qui est absolument phénoménal pour sortir nos indifférences. Et c'est vrai que du coup, ça réactivait sa conférence. Et puis, merci beaucoup, Eva, pour toute la finesse, la sensibilité de manière. Restez pour des signatures et puis au bar un petit peu aussi, mais tant mieux, on est contents, c'est la tradition au Club 44. Merci aussi à la régie et merci encore à vous pour votre présence.